Shieldcast présente la revue de presse Thème du jour AI et Frontier Models avec Clara et Victor. Bonne écoute. Hier au Vatican, scène assez inédite. Léon XIV présente son encyclique sur l'IA, Magnifica Humanitas, et à ses côtés, à la place protocolaire normalement réservée au chef d'État, il y a Chris Ola, le cofondateur d'Anthropic. C'est par là que je voudrais commencer, parce que cette image dit beaucoup de choses sur le moment qu'on est en train de vivre.
Oui, c'est l'image de la semaine. Le Grand Continent a un papier d'Alessandro Arezzu là-dessus, qui est très bien vu. Ola n'a pas été choisi au hasard. C'est l'homme de l'interprétabilité, celui qui essaye de regarder ce qui se passe à l'intérieur des modèles. Le Vatican parle d'intériorité au sens théologique, Ola au sens technique, et ils se rejoignent sur l'objet.
Ce qui m'intéresse dans l'encyclique elle-même, c'est qu'elle ne se contente pas du registre moral. Noema, qui a participé aux délibérations préparatoires à l'Académie pontificale, insiste sur la partie distributive. Léon XIV reprend Rerum Novarum de 1891 et l'actualise. L'idée centrale, c'est la prédistribution. Pas attendre que la croissance ruisselle, mais structurer l'accès au capital en amont.
Et c'est là que c'est intéressant pragmatiquement. Si tu prends au sérieux l'hypothèse que la richesse va se concentrer massivement chez ceux qui possèdent les modèles et l'infrastructure, tu as deux options. Soit tu redistribues a posteriori par l'impôt, ce qui est l'approche classique, soit tu fais en sorte que la propriété du capital productif soit partagée dès le départ. Le pape penche pour la deuxième, et honnêtement, à l'échelle des écarts qu'on anticipe, la première seule de ne pas suffire.
Je veux quand même calibrer. L'encyclique pose un cadre, elle ne donne pas de mécanisme. Capital universel de base, ça peut vouloir dire un fonds souverain qui détient des parts dans les labos, ça peut vouloir dire une dotation individuelle, ça peut vouloir dire une fiscalité du compute. Ce sont des dispositifs très différents, avec des effets très différents.
D'accord, mais je note que dans son discours, Ola dit lui-même quelque chose d'assez frappant. Les labos d'IA fonctionnent avec des incitations qui peuvent entrer en conflit avec ce qui est juste, pression commerciale, pression géopolitique, orgueil. Et il dit que c'est précisément pour ça qu'il faut des gens extérieurs qui poussent dans la bonne direction. Venant d'un cofondateur, c'est une concession importante.
C'est une concession, oui, mais c'est aussi une manière pour Anthropic de capter la légitimité morale du Vatican, pendant que Peter Thiel descend à Rome donner des leçons sur l'Antéchrist et que Bannon plaide pour une IA, je cite, « MAGA compatible ». Le Grand Continent décrit bien cette bataille d'influence. Anthropic joue le versant humaniste. C'est une stratégie de positionnement aussi.
Stratégie, certes, mais une stratégie qui s'incarne dans quelqu'un qui a passé sa carrière sur l'interprétabilité plutôt que sur le scaling pur. Ce n'est pas neutre. Bon, changeons d'angle. Parce qu'en parallèle de ce débat sur la distribution, il y a une discussion technique qui se poursuit sur Less Wrong et qui devrait nourrir l'inquiétude du pape.
Et le poste de Ryan Greenblatt sur l'automatisation complète de la R&D en IA. Sa thèse en deux lignes. Même sans singularité logicielle au sens strict, automatiser entièrement la recherche en IA produit une accélération massive. Avec ses paramètres médians et un coefficient R de 0,7, donc sous-critique, son modèle donne 3 ans et demi de progrès dans la première année après automatisation complète.
3 ans et demi en un an. Et son argument tient en deux mécanismes. D'abord un gain ponctuel énorme dû à l'automatisation. Ensuite, un retour sur le compute qui devient bien plus élevé parce que tout compute supplémentaire ne sert plus seulement à faire des expériences. Il améliore aussi la main-d'œuvre IA qui fait la recherche.
Ce que je trouve honnête dans le poste, c'est qu'il distingue bien les deux régimes. La singularité logicielle pure, R supérieur à 1, c'est une affirmation forte qu'il ne cherche pas à défendre ici. Il dit « Même si on est en dessous, l'effet est déjà gigantesque ». Ça désamorce le débat habituel où les sceptiques pointent que R supérieur à 1 n'est pas démontré.
Et concrètement, ça veut dire que l'horizon de la question distributive du pape n'est pas dans 20 ans. Si Greenblatt a raison à un facteur 2 ou 3 près, le moment où ces décisions politiques deviennent urgentes, c'est maintenant. Tu ne peux pas prédistribuer après coup.
Niveau de confiance, je serai prudente. Le modèle dépend de plusieurs paramètres dont on n'a pas de mesure empirique solide. Mais l'intervalle de scénarios crédibles inclut clairement des trajectoires d'accélération très rapides, et c'est suffisant pour que la planification politique en tienne compte.
Et c'est là que je voudrais mettre Doctorow dans la conversation, parce qu'il prend l'angle exactement opposé.
Oui, son poste pluralistique, L'AI bubble isn't like the Internet bubble. Son argument, pendant la bulle Internet, personne n'avait besoin de forcer les gens à utiliser le web. Les travailleurs contournaient même leur DSI pour utiliser Hotmail ou ICQ parce que c'était vraiment utile. Pour l'IA générative, dit-il, c'est l'inverse. Ce sont les directions qui imposent les outils aux salariés, qui souvent n'en veulent pas.
Sa comparaison avec Lotus Notes est savoureuse. Et son point sur la process knowledge, ce savoir tacite qui circule entre travailleurs et qui ne se capture pas, est solide. Mais je trouve qu'il confond deux choses. Que l'adoption forcée par le management révèle une bulle d'investissement, c'est possible. Que ça veuille dire que la technologie n'a pas d'effet transformateur, c'est une autre affaire.
Je suis d'accord. Les deux peuvent coexister. Tu peux avoir une bulle financière sur les valorisations actuelles et en même temps une trajectoire technique qui, sur 10 ans, change profondément le travail. Doctorow a tendance à fusionner les deux questions.
Et pour revenir au pape, c'est exactement pour ça que son intervention tombe au bon moment. Si tu prends le scénario Doctorow seul, tu te dis « pas de panique, c'est une mode, ça va retomber ». Si tu prends Greenblatt seul, tu te dis « trop tard pour faire quoi que ce soit ». La position intéressante, c'est entre les deux. Il y a une vraie transformation en cours. Elle est plus lente que les hype men le prétendent et plus rapide que les sceptiques le veulent. Et c'est maintenant qu'on a une fenêtre pour décider qui possède quoi.
Un dernier point que je veux mentionner rapidement parce que c'est lié. Les Wrong a aussi un post de Roger Dernalley sur la constitution d'Anthropique, le fameux Soul Doc publié en janvier. L'argument, c'est qu'aligner un modèle vraiment capable demande que la constitution ait une logique sous-jacente cohérente. Pas juste une liste de règles, parce qu'un modèle assez intelligent va se demander « est-ce que c'est négociable ou pas ?»
Ce qui boucle assez bien avec Ola au Vatican, finalement. La question théologique du pape, qu'y a-t-il dans cette intériorité et comment la garder au service de la personne, devient en termes techniques. Comment faire en sorte qu'un système qui raisonne sur ses propres règles continue à les juger légitimes?
Et pour ça, des règles arbitraires ne suffisent pas. Il faut des raisons. Ce qui est au fond une position assez classique en philosophie morale.
On s'arrête là. Beaucoup à digérer aujourd'hui, mais l'image qui reste, c'est quand même Ola à côté du pape. On en reparlera.
Probablement assez vite, oui.